Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous et on commence comme tous les vendredis maintenant avec le carnet de bord de Mathilde Auvillain, le sixième. Mathilde toujours en pleine mer. La semaine a été de nouveau très prenante pour tous les sauveteurs de l'Aquarius de SOS Méditerranée. Et ce n'est pas l'hiver ou encore le mauvais temps qui vont arrêter les migrants toujours en fuite. Depuis fin février, plus de 10 000 rescapés ont été recueillis sur le navire, désormais seul à opérer dans la zone. L'association qui a un besoin urgent de dons pour poursuivre sa mission. Une mission vitale, comme nous le raconte à chaque fois Mathilde.
Cette première semaine de décembre, avant-dernière semaine de mission, a été l'une des plus intenses, sans doute, depuis que j'ai embarqué à bord de l'Aquarius. Quatre opérations de sauvetage en moins de 24 heures entre samedi et dimanche. Une première pour le bateau de SOS Méditerranée, seul bateau humanitaire désormais à rester tout l'hiver en Méditerranée centrale. Décembre. Lors de la dernière escale à Catane, port d'attache de l'Aquarius, les vitrines des magasins et les illuminations de Noël dans les rues nous avaient ramenés à la réalité du calendrier. Tandis qu'à terre, on sort les manteaux et les écharpes, que tout le monde est affairé à faire ses dernières courses de Noël. En Méditerranée, les trafiquants d'êtres humains, eux, continuent de pousser des centaines de personnes en mer sur des embarcations de fortune, sans gilet de sauvetage, en guenilles, malgré les vagues, malgré le froid. Les dangers de cette traversée ne pèsent pas grand-chose face à la misère ou à la guerre qui les ont poussés à quitter leur pays, mais surtout face aux violences, à la torture et aux traitements inhumains que ces personnes ont subis en Libye et qu'elles nous racontent à leur arrivée sur le bateau. Adam, par exemple, a 17 ans, il est Ghanéen, il a les pieds brûlés, il a du mal à marcher et il n'aurait jamais pu nager si son embarcation avait chaviré. Assis sur les cordages de l'Aquarius, il me propose même de partager ses biscuits énergétiques et me raconte son histoire.
Cette blessure, je me la suis faite en Libye. Nous étions là-bas une nuit avant minuit. Nous avons entendu des coups de feu, tatatam, tatatam, au dehors, autour de notre maison. Au début, nous pensions que c'était normal, et puis ça a continué à augmenter, toujours plus de coups de feu. Mais nous ne savions pas que c'était un combat entre les Libyens blancs et les Libyens noirs. Et puis ils ont mis le feu à la maison parce qu'elle appartenait aux Libyens noirs. Nous avons eu très peur de sortir à cause des balles perdues. Si nous étions sortis, nous serions peut-être déjà morts, alors nous nous sommes cachés. Mais après, le feu a gagné toute la maison. J'ai marché dans les flammes et je suis sorti. Les Libyens s'en fichaient de savoir si on était dans la maison quand ils l'ont incendié. Tout ce qui compte pour eux, c'est les combats. Ils n'ont aucun respect pour les Noirs.
Quand il est allé à l'hôpital en Libye, on lui a refusé les soins parce qu'il ne pouvait pas payer. Alors son ami lui a appliqué des serviettes humides sur les pieds, c'est tout. À bord de l'Aquarius, le docteur de Médecins Sans Frontières examine la blessure et elle fait une moue dubitative. Il est malheureusement trop tard pour soigner la brûlure. Adam reçoit un petit sachet de comprimés d'ibuprofène pour faire passer la douleur qui persiste 10 mois après l'incendie. Les brûlures et l'hypothermie sont les deux pathologies les plus redoutées par les équipes médicales de l'Aquarius. Mais les brûlures que l'on voit à bord sont généralement provoquées par le mélange d'essence et d'eau salée à bord des canots. En contact avec ce mélange létal, la peau se détache en lambeaux. À peine secourues, les personnes doivent donc immédiatement enlever leurs vêtements imbibés de gasoil et se savonner la peau au plus vite. Mais l'hiver, le risque est aussi d'aggraver ainsi, avec cette douche, le cas de ceux qui sont déjà en état d'hypothermie. Et plus on s'avance dans l'hiver, et plus ces cas seront nombreux. Dimanche dernier, à l'aube, deux jeunes femmes retrouvées inconscientes dans un canot pneumatique ont ainsi succombé devant nos yeux, malgré tous les efforts déployés par l'équipe médicale pour les réanimer et pour tenter de faire remonter leur température. Les 143 autres personnes qui étaient à bord de cette embarcation ont finalement été ramenées saines et sauves à bord de l'Aquarius, mais c'était moins une. Leur canot était en train de se dégonfler. Heureusement, ce jour-là, la mer était plate, avec des vagues d'un mètre, comme cela arrive souvent en hiver. Ça aurait été une autre tragédie en Méditerranée.
Des élections en Macédoine ce dimanche après des mois de faux départs. Les électeurs donc doivent choisir des députés pour leur parlement. Dans la foulée d'une révolution jeune et colorée, le pays pourrait mettre un terme enfin aux nombreux scandales qui ont émaillé la coalition au pouvoir. Mais comme partout ailleurs en Europe, la tentation du populisme augmente avec la montée d'un sentiment europhobe et pour les Albanais, un œil indulgent vers le président turc Simon Rico.
Dans les rues de la Tchartchia, le vieux bazar ottoman de Skopje, la campagne électorale bat son plein malgré le froid. De nombreuses affiches ornent les murs, tandis que les militants distribuent des tracts emmitouflés dans leurs manteaux. À un carrefour, la sono d'une petite formation albanaise crache de la pop locale avant que ne commence le meeting de la soirée. Dimanche, 5 coalitions et 6 partis s'affrontent pour des législatives très attendues après avoir été reportées à deux reprises. Selon l'analyste Arsim Zekoli, les enjeux de ces élections sont avant tout géopolitiques.
En réalité, la bataille pour le pouvoir entre le gouvernement et l'opposition n'existe que superficiellement en Macédoine. Si l'on regarde plus attentivement, on se rend compte que le pays est sous l'influence tant de l'Ouest que de l'Est. J'espère que l'avenir me donnera tort, mais je crois bien que nous sommes entrés dans une nouvelle ère où les partis macédoniens sont moins concernés par les questions et les réalités locales que par les facteurs extérieurs.
Le week-end dernier, le ministre autrichien des Affaires étrangères a suscité une vive polémique en venant soutenir le parti conservateur au pouvoir, pourtant engagé dans une dérive autoritaire vivement dénoncée par Bruxelles. Mais pour Vienne et pour le groupe de Visegrad, le Vömmero Döpömönöe apparaît comme le meilleur partenaire pour assurer la stabilité de la Macédoine en première ligne pour gérer la crise des réfugiés. Très patriote, son programme se résume à se poser comme rempart aux « traîtres à la nation ». Dans son viseur, l'opposition social-démocrate qui tente de son côté de capitaliser sur la révolution des couleurs, le grand mouvement citoyen du printemps dernier. Au sein de la minorité albanaise, si le vote reste dominé par le BDI, l'allié de longue date du Vömmero Döpömönöe, le mouvement pro-Erdogan Bessa pourrait créer la surprise. Preuve de la tension qui entoure ce scrutin, plus d'un tiers des électeurs se disent toujours indécis.
La période de Noël approche à grands pas et en Norvège, la tradition veut que tous les élèves de l'école publique puissent assister sur leur temps scolaire à un office religieux dans un temple luthérien. La religion protestante est majoritaire dans le pays. Mais au nom de la diversité des religions dans les établissements et d'une certaine laïcité, des directeurs d'école refusent désormais de respecter cette tradition cette année, suscitant un grand débat dans toute la Norvège. À Oslo, le reportage de Grégory Tervel.
La liturgie de Noël pour les élèves est une tradition largement répandue en Norvège, y compris dans cette école d'Oslo où la plupart des enfants ne sont pas chrétiens. Sarah est originaire d'Irak, elle est musulmane mais a grandi en Norvège dans cette école. Elle est toute heureuse que ses deux enfants puissent aller à l'église avec leur classe, comme elle durant son enfance.
Quand j'étais petite, j'adorais la période de Noël à l'école. On chantait plein de chansons de Noël, on allait à l'église, on défilait pour la fête de la lumière. C'était très amusant et on a appris beaucoup de choses sur la chrétienté. Il ne faudrait pas que cette tradition s'arrête. Il faut que les enfants apprennent cela, qu'ils soient chrétiens, musulmans ou autres. Car nous vivons dans ce pays où la plupart des gens sont chrétiens, donc c'est bien pour nous d'apprendre comment ils vivent.
La liturgie de Noël n'est jamais une obligation pour les élèves. Ceux dont les parents ne souhaitent pas qu'ils y participent sont occupés à une autre activité organisée par l'école. Ce sont les directeurs d'école qui décident, chacun pour leur établissement, s'ils veulent ou non proposer à leurs élèves une cérémonie à l'église avant Noël. Le mois dernier, les directeurs d'école d'une même commune se sont entendus pour retirer l'office de Noël de leur programme scolaire. La première ministre norvégienne Erna Solberg, issue du parti conservateur, l'a regretté devant le Parlement.
Il serait quand même étrange que l'on retire l'activité qui explique le mieux pourquoi on fête Noël. Je pense que la liturgie de Noël est une expérience bénéfique pour les enfants. J'espère aussi qu'un nombre élevé de parents, même d'une autre religion, ont cette curiosité et cette envie d'apprendre. De la même manière, je trouve extrêmement important que les enfants norvégiens en sachent plus sur le judaïsme, l'islam, le bouddhisme ou l'hindouisme, et même qu'ils aient l'occasion d'expérimenter les traditions de ces religions. Dans notre pays, ce serait une rupture historique que d'avoir peur d'emmener les élèves au temple pour Noël, sous prétexte de ne pas favoriser tel groupe ou de faire une différence entre les enfants. Cette tradition fait partie de notre héritage culturel.
Une tradition de plusieurs siècles à laquelle l'Église luthérienne est également très attachée. Christine Gunnleiksrud est la présidente de l'Église de Norvège.
Dans une salle de classe, on ne peut apprendre que le côté rationnel d'une religion. Or, beaucoup de ce qui fait un office religieux, de ce qui fait une religion, réside dans l'ambiance, la musique, les attitudes, les symboles ou la façon de vivre une expérience. Pour se familiariser avec une religion, je pense qu'il est important d'avoir une approche pratique sous la forme d'expérience, pas seulement théorique. Certains élèves peuvent d'ailleurs se montrer critique, ce n'est absolument pas un problème. C'est important de développer son esprit critique et d'apprendre à penser de manière indépendante.
L'apprentissage par l'expérience, c'est justement ce principe que conteste la Fédération humaniste et éthique, le principal opposant à la liturgie de Noël pour les écoliers. Cette association organise des baptêmes, des confirmations, des mariages et des enterrements civils, c'est-à-dire des cérémonies incluant une réflexion spirituelle et humaniste dénuée de toute considération religieuse. Agnieszka Brun fait partie de la direction de cette organisation qui compte près de 100 000 membres en Norvège.
Nous pensons que c'est la famille qui a la responsabilité d'emmener ses enfants à l'église et l'école, celle d'enseigner les religions aux enfants. Le fait d'être à l'église pendant un office est un acte religieux. C'est une participation à un rite religieux de la confession majoritaire du pays. Et ce n'est pas à l'école publique de proposer ça. Nous faisons une différence entre l'apprentissage de la religion et la participation au rite.
Ce débat témoigne de la sécularisation des sociétés scandinaves. Le processus de séparation entre l'Église et l'État est actuellement en cours en Norvège. La Constitution a été modifiée dans ce sens en 2012. Mais si l'Église de Norvège n'est plus une Église d'État, elle reste, d'après la Constitution, une Église soutenue par l'État. Elle continue donc d'être financée par les contribuables, comme toutes les autres communautés religieuses ou spirituelles du pays, au prorata de leur nombre d'adhérents.
Ce n'est pas une visite ordinaire à laquelle nous convie Marielle Vituro. Dans le nord de la Lituanie, la centrale nucléaire Ignalina est totalement à l'arrêt depuis 2009. Du type de celle de Tchernobyl, sa fermeture a été l'une des conditions pour l'entrée de ce pays balte dans l'Union européenne. Son démantèlement a d'ailleurs débuté, mais elle se visite et les touristes y arrivent comme Marielle Vituro.
La visite de 2h30 dans ce bastion de l'atome commence par un rituel immuable pour tous les visiteurs. On ne pénètre pas dans une centrale nucléaire, même à l'arrêt, sans un équipement spécial. Il faut donc se mettre en sous-vêtements et revêtir pantalons, vestes et charlottes fournies par la centrale, passer par un sas et puis revêtir une deuxième couche de ses vêtements tout blanc. La visite peut enfin commencer. De longs couloirs bas de plafond mènent de la salle des réacteurs à la salle des turbines à la salle de commandement. Du type de celle de Tchernobyl, le premier des deux réacteurs de la centrale d'Ignalina a commencé sa production le 31 décembre 1983. Ils assuraient jusqu'à leur fermeture fin 2009 l'indépendance totale de la Lituanie pour son approvisionnement en électricité. La construction d'un troisième bloc avait été prévue, mais l'explosion de Tchernobyl et les mouvements écologiques, fer de lance de l'indépendance de la Lituanie, ont eu raison de ce projet. Plus de 2000 personnes travaillent toujours dans cette centrale à son démantèlement. Et comme le relève Guillaume Erzekanowski, un urbaniste qualifié qu'il a récemment visité, voir le réacteur en cours de démontage et le site de recyclage des matériaux est tout simplement impressionnant par l'ampleur du projet, sa complexité et surtout son caractère inédit. Ignalina est la première centrale de type RMBK en cours de démantèlement. Un savoir-faire que les Lituaniens pourront monnayer par la suite s'ils arrivent à le mettre en valeur. La visite est sûre, affirment les organisateurs, mais à son issue, l'étape du dosimètre est pourtant inévitable. Elle a aussi un prix conséquent, 60 euros, mais il faut dire que l'expérience est unique.
Vous l'avez deviné, c'est notre rendez-vous avec Vincent Teval. Bonjour Vincent.
Bonjour Catherine.
Alors, vous nous emmenez aujourd'hui aux confins des Balkans et de la Turquie avec cette jeune artiste kurde domiciliée en Angleterre.
Çiğdem Aslan vit à Londres, mais elle est née à Istanbul dans une famille kurde et a enregistré son deuxième album dans un mythique studio d'Athènes. Voilà pour les repères géographiques d'une chanteuse qui décline le rebetiko avec une grâce et une liberté remarquables au fil de chansons interprétées en grec ou en turc. Avec à la clé un beau survol des frontières des Balkans et du sud-est anatolien, comme le feraient des oiseaux migrateurs, des grues par exemple. C'est de là que vient le titre du disque A Thousand Cranes, un millier de grues, comme autant de messagers, de porteurs de culture et de réconfort dans l'exil. Une symbolique forte pour des chansons où se frôlent musique traditionnelle, jazz et improvisation sous le charme de la voix de Çiğdem Aslan.
Se quitte sur les airs orientaux de Çiğdem Aslan. Toute cette semaine, il y avait à la réalisation Françoise Grelot. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur RFI.fr, sur notre page Facebook. Ne zappez pas dans quelques instants les infos.